There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Dans l'épisode aujourd'hui, nous allons parler PMA, dans un cadre que nous n'avons pas encore abordé dans le podcast. Parfois, on a recours à la PMA de manière curative, car la nature nous en fait voir un peu de toutes les couleurs pour devenir parents. Et puis parfois, il nous manque autre chose. Et oui, dans certains cas, le recours à la PMA, et plus précisément à l'insémination avec donneur, c'est aussi un moyen de devenir maman pour certaines femmes chez qui le désir d'enfant est si grand et si fort que celles-ci ne peuvent, ou parfois même ne veulent, pas, c'est selon, le partager avec n'importe qui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon invitée Émilie nous raconte ses deux grossesses. L'une en France, arrivée naturellement, alors qu'elle était très jeune, et une déclenchée en Espagne, 15 ans plus tard, alors que son envie d'enfant était devenue plus forte que tout. Encore une belle histoire de PMA, et sans plus attendre, voici ma rencontre avec Émilie. Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci Anne-Fleur.
Alors, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ?
Alors, moi, je suis à côté de Nantes, en France.
Donc, on est là aujourd'hui pour que tu nous racontes ton parcours PMA et comment est-ce que tu as vécu la PMA. Avant de rentrer dans ton histoire, est-ce que tu peux te présenter brièvement donc, tu t'appelles Émilie, quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors, donc, effectivement, je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans et je suis aide médico-psychologique. J'accompagne des enfants en situation de polyhandicap dans la région nantaise, donc. Et je suis maman de deux filles, une grande de 18 ans et une de 2 ans et demi.
Tu as eu donc justement une première fille il y a 18 ans. Si j'ai bien tout suivi, tu n'as pas eu recours à la PMA pour elle, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
D'accord. Tu veux nous raconter son histoire en quelques mots ?
En fait, effectivement, mon parcours avec la PMA, il n'est pas lié à l'infertilité comme c'est souvent le cas, mais plutôt à mon histoire de vie, parce qu'effectivement, j'ai eu ma première fille... Il y a donc 18 ans, de façon entre guillemets classique, mais effectivement plus jeune que ce que j'avais pu imaginer. Sachant pourtant, j'avais imaginé avoir des enfants jeunes, hein, mais pas si jeunes que ça, puisque je l'ai eu à 19 ans. Et j'avais pas de diplôme, j'avais pas de situation. Voilà. Et j'ai vécu cette grossesse toute seule, parce que le papa aussi était jeune et ne se voyait pas être papa.
Ah ouais. Donc pas facile. Très bien. Et alors du coup, justement, donc on est là donc effectivement pour parler de ton histoire de PMA. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter dans quel cadre est-ce que tu as eu recours à la PMA ? Est-ce que ça a été donc un projet avec quelqu'un ? Est-ce que ça a été un projet toute seule ?
Non, alors c'est un projet complètement seul. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un parcours, une histoire de vie un peu particulière avec ma fille que j'ai eue un peu jeune. J'ai fait des rencontres, mais pas la rencontre qui m'a permis de concrétiser, de fonder cette famille imaginée quand j'étais plus petite.
Elle ressemblait à quoi la famille idéale que tu avais
La femme que j'avais imaginée, ben, c'était mariée avec quatre enfants, quatre filles même, pour être complètement honnête. Donc, je m'étais dit de les avoir entre une vingtaine d'années et 30, 32 ans, quoi, à peu près. Donc, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
D'accord. Alors, à quel âge, justement, tu as commencé à te poser des questions sur comment faire autrement ?
J'ai longtemps réfléchi, et c'est vrai qu'un jour, entre guillemets, parce que c'est venu quand même petit à petit, mais j'ai commencé à avoir peur de me réveiller en me rendant compte qu'il était trop tard, en fait. Et donc, à imaginer cette PMA seule. Donc, j'avais 34 ans.
Et tu as pensé... tout de suite, si je puis dire, à la PMA, ou est-ce que tu as pensé à d'autres alternatives pour devenir maman et agrandir ta famille ?
j'ai pensé rapidement à la PMA quand même. Ouais, j'ai pensé rapidement à la PMA seule.
Ok, d'accord. Alors, raconte-nous un petit peu, ça ressemble à quoi la PMA seule ?
Ça ressemble à quoi ? Ben, on est vraiment tout seul quand même. Sachant qu'en France, c'est pas légal d'avoir un recours à la PMA en tant que célibataire. Il a donc fallu que je me retourne vers d'autres pays, donc que je cherche des renseignements sur Internet. Ça prend quand même pas mal de temps. Il y a beaucoup de questions qui se posent auxquelles on n'avait pas forcément pensé dans un premier temps.
Ouais, de quel genre alors ?
Quel pays déjà ? Dans quel pays c'est légal ? Enfin, c'est possible. Et puis, dans chaque pays, les lois ne sont pas forcément les mêmes. Je sais que les Pays-Bas, par exemple, l'anonymat du donneur peut être levé aux 18 ans de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas en Espagne, par exemple.
D'accord, ok.
Donc, voilà, il y a ce genre de questions qui se posent.
Ouais, alors, t'en pensais quoi, justement, de cette question, par exemple, en particulier ? Donc, tu t'es basé sur tous ces éléments-là pour choisir dans quel pays tu allais te rendre ?
Oui et non, parce qu'il y avait aussi donc, le côté financier quand même qui entre en compte, qui est assez important, la facilité justement d'accès à ces pays-là. Alors moi je me suis tournée vers l'Espagne, parce que l'Espagne est quand même plus accessible aux personnes célibataires. Moi c'était en plus facile de prendre l'avion pour aller en Espagne, c'était un peu moins cher aussi. Et quant au donneur, par contre, il est anonyme complètement. Et ça me questionne encore aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ça me questionne. Je me dis que j'espère que ma fille aura pas de difficulté à se construire à cause de cet anonymat, quoi.
D'accord. Et en Espagne, c'est complètement, c'est irréversible.
Mais pour l'instant, j'espère que d'ici à ce qu'elle ait 18 ans, la loi aura changé, mais pour l'instant, c'est comme ça.
D'accord. Ok, bon, on en reparlera. Donc, est-ce que tu te fais accompagner un peu dans ton évaluation des différents pays ? Donc, tu as considéré uniquement les Pays-Bas et dans le Danemark et le...
Ouais, les Pays-Bas et l'Espagne.
D'accord.
Okay. Parce que il y a deux noms cliniques en fait qui ressortaient régulièrement et qui se situaient aux Pays-Bas et en Espagne. Voilà. Et puis la clinique où j'ai été en Espagne ressortait vraiment plus souvent et avait quand même des résultats a priori meilleurs.
D'accord. Ok. Bon, super. Et question bête, tu parlais espagnol toi ?
Pas du tout. Je parle pas du tout espagnol, je parle un anglais de collège, donc non, je parle que français, mais c'est absolument pas un problème, parce que là-bas, tout le monde parle plein de langues, et notamment français. D'abord, j'ai croisé, je pense que des patients français, et le médecin que j'ai vu était belge, donc voilà, c'est pas du tout un problème en fait.
Ils sont vraiment habitués à ce que les gens traversent la frontière pour venir pour la PMA là-bas, quoi. Ça, c'est dingue. D'accord. Alors, donc, du coup, et deuxième question subsidiaire, je dirais, en plus de la langue, j'imagine, en fait, un petit peu traverser ça, quoi. Donc, tu fais tes recherches, tu trouves des informations sur ces deux centres. Finalement, l'Espagne semble être le plus accessible à plein de niveaux. Est-ce que tu as quand même l'opportunité de poser des questions à des gens qui sont passés par là ? Est-ce que tu trouves des gens qui sont passés par là à qui tu peux poser un petit peu des questions ? Comment ça se passe ? Ou est-ce que...
Ben non, justement, c'est là où on est quand même un peu seul. C'est que, alors j'ai lu des expériences sur Internet, tout ça. Après, communiquer avec les gens, c'est encore un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est là où on se sent seul. Ce qui m'a fait peur aussi, c'était de ne pas trouver de gynécologue en France qui allait me suivre, par exemple.
Ah d'accord, oui, parce que oui, effectivement, il te faut un gynéco local aussi.
C'est ça. Et donc effectivement, moi, pas d'échange avec des personnes qui sont passées par là, parce que il y a peu de retours en fait. C'est quand même en France encore assez tabou, alors que a priori, ça se fait quand même. Assez souvent. Mais c'est vrai que c'est pas facile de pouvoir trouver des gens qui veulent bien en parler.
Ouais, d'accord.
peuvent en parler.
Est-ce que c'est parce que c'est illégal que c'est difficile d'en discuter
dans l'espace
public?
Oui, je pense que le fait que ce soit pas légal fait peur aux gens, en fait.
Waouh, ok. Ok, bon, alors, donc, du coup, fast forward. Quelle est la première étape, du coup, une fois que tu as identifié que ce serait l'Espagne? Tu cherches un gynéco en France d'abord ou est-ce que tu pars en Espagne? Comment ça se passe?
Alors, non, je prends contact avec la clinique en Espagne, qui donc, par mail principalement, qui est hyper réactive et qui répond dans les deux jours qui suivent, qui m'explique qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont même une liste de médecins, de gynéco français autour de moi qui pourraient éventuellement m'accompagner.
C'est dingue. Ah ouais, d'accord.
Okay. Comme quoi, c'est plus courant que ce qu'on peut penser et ce qu'on peut trouver, en fait.
Ouais. Et puis, vachement rassurant, du coup, parce que du coup, on va pouvoir t'accompagner quand même.
Alors, rassurant, et en même temps, j'étais quand même inquiète de ces premiers contacts que j'ai faits par téléphone. Je n'osais pas me déplacer dans les cliniques de peur du regard de...
Ah ouais.
Ouais, du secrétariat.
Dans les cliniques en France, tu veux dire, auprès des praticiens qu'on
a rendez-vous.
Ah ouais.
Oui, bah oui, c'est bête parce qu'en plus j'ai été très bien, tout de suite très bien comprise et très bien, enfin ça a été très simple. J'ai appelé deux gynécos et les secrétaires ont été limite étonnés de mon questionnement, quoi.
Bah écoute, tant mieux que ça se passe comme ça.
Ça c'est bien.
D'accord, ok. Donc du coup, tu prends contact avec deux gynécos, tu rencontres les deux finalement ou...
J'en ai rencontré qu'un, celui qui était le plus proche de chez moi à ce moment-là.
D'accord. Alors comment ça se passe?
Donc le gynéco en France me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il peut me suivre. J'avais un premier rendez-vous en Espagne fin août. Donc j'ai pris rendez-vous avec le gynéco juste après. En France, juste après. Et avant ça, le centre en Espagne m'avait prescrit pas mal d'examens. Donc, qu'il fallait justement que je fasse retranscrire en France. Faut savoir que mon médecin généraliste a été aussi très, très positive et m'a aussi accompagnée là-dedans sans problème.
D'accord, ok. Donc, du coup, en fait, pour voir si j'ai bien compris, donc tu en fait récupères toute une liste de batteries d'examens qui sont finalement assez classiques quand tu commences un parcours PMA, j'imagine, que tu dois du coup faire en France. Et d'un point de vue logistique, donc tu fais ces examens-là et tu dois les retranscrire en espagnol, les résultats, c'est ça?
Non, je ne les retranscris même pas, je leur redonnerai quand j'irai fin août.
Ah oui, d'accord, donc enfin oui, je vais dire simple. C'est jamais simple, mais ok, d'accord.
Donc, me voilà partie pour faire tous les examens qu'on m'a demandé. Donc, ce sont effectivement les examens, je pense, assez classiques pour n'importe quel parcours. Des bilans sang, je ne sais combien de tubes de sang, une hystérographie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et frottis, enfin, tous les examens assez classiques.
Très bien. Donc, tu fais tout ça, et puis direction l'Espagne?
C'est ça, direction l'Espagne.
C'est où d'ailleurs en Espagne que tu fais tout ça?
À Barcelone.
Barcelone, ok.
Donc j'en profite pour emmener ma fille et y passer quelques jours, tant qu'à faire.
Tu lui en avais parlé du coup à ta fille de ton projet?
Oui, parce que je ne me voyais pas me lancer comme ça sans qu'elle soit au courant et puis qu'elle me donne son avis.
Ouais, et elle en pensait quoi alors?
Elle était super investie et d'un grand soutien, alors qu'elle n'avait que 15 ans quand même. Et effectivement, ouais, non, sans elle, ça aurait été compliqué. Enfin, sans qu'elle me donne cet accord-là, cet accord entre guillemets, mais ça aurait été plus difficile, effectivement. Et puis en plus, le fait qu'elle soit tout de suite enthousiaste, je me suis dit que j'étais pas si pourrie que ça comme mère, si elle voulait bien que j'ai un deuxième.
Bien sûr que non, t'es pas pourrie comme mère. Bon, bah c'est super. Donc du coup, te voilà partie avec ton aîné, direction Barcelone. Et alors, comment ça se passe, donc, la première rencontre, du coup, en personne avec cette clinique?
Voilà, et donc là, je rencontre un médecin qui est belge. Je lui donne tout mon dossier. Donc, il l'examine et il conclut qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, moi, vu que j'avais pas de problème d'infertilité, c'était quand même déjà plus simple. Donc, il conclut qu'il n'y a pas de souci. À mon âge, j'avais 30% de chance que ça réussisse du premier coup.
D'accord.
Ce que j'espérais quand même fort, parce que ça a un coût à chaque fois d'aller en Espagne, plus le coût de l'insémination.
Ça représente quoi, du coup, comme coût, l'insémination ?
Alors, l'insémination toute seule, c'est 1500 euros.
Ah, wow, ok.
Et puis, bah, après, il y a tous les à côté, quoi.
Ouais. Et t'avais, donc tu dis, par rapport à ton âge, t'avais du coup quel âge ? Parce que tu t'es lancée dans tout ça, t'as dit à 34 ans.
35 ans. 34, ouais, j'allais sur mes 35.
Ok. D'accord.
Donc le médecin belge, enfin en Espagne, il est belge, conclut que tout va bien et donc il me fait repartir avec des ordonnances pour des hormones. Et du coup, un traitement. Alors, j'ai pas de souci d'infertilité, mais il trouvait que c'était plus sûr et justement avec plus de chances que ça réussisse du premier coup si j'avais quand même un traitement hormonal comme n'importe qui dans ce cadre-là.
Ouais. D'accord. Donc, en fait, tu veux dire le traitement hormonal, c'est la première moitié de ton cycle, en fait, c'est la stimulation, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Ouais, ça fait partie du protocole, quoi. Ok.
Voilà. Mais qui n'est apparemment pas forcément obligatoire si je ne voulais pas, étant donné que je n'avais pas de soucis de fertilité.
D'accord. Ok. Ouais, c'est histoire de mettre toutes les chances de ton côté. Et...
Voilà, c'est ça. Quoi.
Ok.
Donc, je repars avec mon petit stylo dans la main et une ordonnance, du coup, à retranscrire en français, et c'est là où mon gynécologue intervient.
Donc, te voilà de retour en France ?
Retour en France, je vais voir le gynéco qui me donne sans problème toutes ces ordonnances, en me précisant par contre que ça ne sera pas remboursé par la Sécu.
Oui, tu t'en doutais, j'imagine ?
Oui, bah oui, puisque ce n'est pas légal, donc voilà, qu'il n'y avait pas de souci pour le faire, mais que ce n'était pas pris en charge.
D'accord. Ok, donc tu récupères tout ça et tu commences ton cycle, enfin tu commences tous ces traitements-là à tes prochaines règles ou...
Et je commence après quand je le souhaite. Donc effectivement, j'ai commencé au cycle suivant, donc en septembre, très peu de temps après, peut-être une semaine après, je crois, quelque chose comme ça.
D'accord, ouais, donc t'enchaînes quand même tout ça vachement rapidement.
Ouais, j'ai tout enchaîné, sachant que le premier contact avec la clinique, j'ai dû le prendre en avril.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé mon traitement en septembre.
Il y a même des centres de PMA en France qui ne sont pas aussi rapides quand même.
Non, ils sont vraiment rapides. Il n'y a pas d'attente. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se retournent vers cette clinique, quoi.
Ok. Bon, alors, donc, du coup, tu te lances dans ton traitement. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui t'aide, qui te fait les piqûres ou tu gères tout toute seule ?
Non, je gère toute seule.
Ouais. Warrior.
Bah, je sais pas, mais de toute façon, je suis toute seule. Donc,
super, ça se passe bien. La première partie de ton cycle, tu supportes bien la stimulation hormonale ?
Ouais, ça va. Ça va. Après, c'est des hormones. Hein, donc il y a des hauts, des bas, mais ça va. Et puis, j'ai eu la chance de pas que ça ne dure pas trop longtemps.
Ah, ok. D'accord.
J'ai dû faire ce traitement une vingtaine de jours seulement. Donc, voilà. Avec, comme tout le monde, je pense, c'est ponctué par des prises de sang, des échographies tous les 2-3 jours, où là, il faut que je rende mes résultats, donc il faut que je fasse ça le matin avant de partir travailler, et je rends mes résultats
D'accord.
en Espagne dès que je les ai, donc il faut que je les appelle, il faut que j'arrive à les contacter avant 21h, pour qu'ensuite ils étudient les résultats. Ils me rappellent et me disent s'il faut que je augmente le traitement, si je le diminue, combien de temps je continue encore et dans combien de temps je refais ces mêmes examens.
D'accord, ok. Ouais, donc c'est quand même un protocole très investi, je dirais.
Oui.
Comment tu fais d'ailleurs pour gérer ton boulot pendant ce temps-là ? Tu les avais prévenus un petit peu que tu te lançais dans un protocole de ton côté ou pas du tout ?
Pas du tout, parce que, une fois encore, c'est pas légal, donc toujours cette peur un peu, cette espèce de tabou. Et puis en plus, je suis un peu superstitieuse, je me suis dit que si ça fonctionnait pas, je voulais pas que 50 personnes soient au courant de ça.
D'accord. Donc.
Donc, je me fais le matin avant de travailler et en faisant tout pour essayer de ne pas être en retard. Alors, je préviens mes collègues proches quand même que je peux être un petit peu en retard parce que j'ai une prise de sang à faire, mais voilà, c'est tout.
Bon, très bien. Et donc, tu fais donc ces 20 premiers jours de stimulation. Et du coup, je veux dire, tu ne sais pas. Quel est le jour où on va te déclencher, où il faut que tu sois en Espagne. Donc, comment est-ce que tu d'un point de vue logistique, en fait, je me dis comment est-ce que tu arrives à réagir rapidement, comment ça se passe tout ça?
Ah bah là, par contre, ça va vite. Enfin, c'est vrai que ce moment-là précis doit être un des moments que j'avais pas forcément anticipé.
D'accord.
Dans le sens où, de toute façon, je peux pas savoir quand est-ce que ça va être. Donc voilà, je l'ai pas vraiment anticipé ce moment-là. Et en fait, un mardi, donc on me rappelle en me disant que c'est bon, cette fois je suis prête et il faut que je sois jeudi.
D'accord. Donc ils te laissent faire le déclenchement de ton côté, enfin le déclenchement de l'ovulation de ton côté. Et donc t'as quoi, c'est 36 heures, un truc comme ça généralement pour...
C'est ça.
D'accord. Ok. Super. Bon, bah, heureusement que moi j'ai envie de dire merci Ryanair et toutes les compagnies aériennes de ce genre-là.
C'est exactement ça. Alors, je suis restée sur place. J'aurais pu faire l'aller-retour dans la journée. Je trouvais ça un peu trop compliqué au niveau émotionnel. Donc, je suis quand même restée une journée sur place. Enfin, une nuit sur place.
D'accord. Ok. Alors, raconte un peu comment ça se passe.
Et ben, là, donc, on m'appelle pour me dire que c'est bon, il faut partir le jeudi. Enfin, il faut être sur place le jeudi. Donc, je prends mes billets, je préviens mon entreprise que je vais pas pouvoir venir pendant 2 jours. Et puis, ben, c'est parti. C'est parti, je prends l'avion. Alors là, c'est vrai que émotionnellement, c'est quand même pas simple de partir comme ça tout seul.
Là, du coup, cette fois-ci, ta fille reste à Nantes ?
Ma fille reste à Nantes. J'ai appelé ma maman pour qu'elle vienne, pour qu'elle reste avec elle les 2 jours. D'abord parce qu'elle a école et puis parce que je ne me voyais pas. Enfin, là, c'était pas forcément sa place là, d'être à côté de moi à ce moment-là.
Ouais. Donc, du coup, tu te retrouves effectivement complètement seule à Barcelone à aller vivre un truc qui est quand même pas complètement simple, quoi.
C'est ça.
Comment ça se passe Est-ce que l'équipe médicale, du coup, t'accompagne aussi un petit peu psychologiquement là-dessus ? Enfin, raconte un petit peu comment tout ça se passe ce fameux jeudi.
Non, alors non, ils sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment gentils, rassurants, ils expliquent bien les choses. Par contre, c'est quand même assez technique et financier. Hein, donc, il n'y a pas d'accompagnement. J'entre à la clinique à l'heure où on m'a convoqué. On m'installe dans une petite salle d'attente qui est très sympa, très douillette par contre. Hein. Le médecin m'appelle, m'explique un peu comment ça se passe, me donne 2-3 papiers et notamment me fait signer un consentement et me donne la seule chose du donneur que j'ai le droit de savoir, à savoir son groupe sanguin.
D'accord.
Et puis bah, c'est parti, insémination. Elle me dit que je peux rester là 5-10 minutes et puis merci, au revoir.
Waouh!
Donc, non, c'est quand même très, très technique, tout très, oui, très financier. Il faut savoir que je suis quand même passée déposer mon chèque aussi juste avant l'insémination. Donc, c'est, voilà, ça reste.
D'accord.
Ça reste du business quoi, pour eux quand même un peu.
Donc, du coup, tu fais ton insémination, tu restes allongée quelques minutes. Tu retournes du coup, c'est quoi ? Donc, tu passes la nuit à Barcelone, tu t'es pris un hôtel ?
J'ai pris un hôtel. En sortant, j'ai quand même été faire du shopping parce que...
Parce que pourquoi pas ?
Il y avait un centre commercial juste à côté. Et puis voilà, et puis je rentre à l'hôtel, je me pose et là, je me détends un peu parce que c'est vrai que les nerfs avaient quand même... J'étais quand même pas si sereine que ce que je pensais. Donc voilà, je me détends, je passe la nuit et puis...
Qu'est-ce qui t'inquiétait alors ?
Eh bien, toute la procédure, comment ça se passait, est-ce que ça allait fonctionner, en plus, tout simplement. Mm-hmm. Et puis, bah, oui, en fait, une fois encore, ce n'est pas si simple de faire toutes ces démarches toute seule.
Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que justement, à ce stade-là, tu avais mis au courant certains de tes proches à qui tu pouvais, du coup, sur qui tu pouvais compter pour avoir un soutien, je sais pas, au sein de ta famille, de tes amis ?
Alors, bah, ma fille, ma mère mes parents étaient au courant. J'avais parlé de ma démarche à mes amis proches. Par contre, j'avais pas donné de date, j'ai pas dit quand je partais.
Ah ouais, d'accord. Ouais, donc, tu n'avais pas, ce jeudi soir où tu as peut-être besoin d'appeler un copain ou une copine pour raconter un peu, pour te faire un peu rassurer. Tu n'avais personne, quoi, du coup, là.
Non, non.
Pas facile. Et tout le monde te soutenait, justement, dans ta démarche ?
Mes amis proches, oui. Après, au niveau de ma famille, j'ai eu quelques... Un retour un peu difficile, parce que j'ai encore eu du mal à digérer d'ailleurs.
Oui.
Mais voilà. En règle générale, oui, ça a été.
D'accord. Okay.
J'ai été soutenue par les personnes, en tout cas, qui me voient, entre guillemets, au quotidien, régulièrement, et du coup, qui connaissent ma façon d'être, de faire quotidiennement, et qui m'ont rassurée en me disant que j'en étais capable. Donc ça, c'était important.
Ouais, parfois, on a besoin de d'entendre dire ça, c'est clair. C'est clair. Ok. Bon, alors, donc, du coup, retour à Barcelone.
Retour en France, du coup, ça y est, l'insémination.
Ouais. Non, moi, j'étais encore à Barcelone, mais d'accord. Donc, du coup, ça y est, c'est fini. Tu rentres en France. C'est quoi la suite, alors?
Eh bien, la suite, c'est d'attendre 15 jours avant de pouvoir faire le test de grossesse. On m'a dit merci, au revoir, mener une vie normale. Et puis, faites le test dans 15 jours. C'est pas la peine de le faire avant.
Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Tu tiens les 15 jours quand même?
Pas du tout. J'ai été acheter, je crois, au bout d'une semaine, j'ai dû acheter 5 tests en même temps.
Ah oui, quand même.
Ouais. En me disant que... Alors vraiment, les tests les moins chers possibles, en me disant, je sais que je vais les faire, qui vont être négatifs, parce que ça fait qu'une semaine. Mais c'est pas grave, ça va me faire patienter. Je savais, je connaissais les résultats avant de les faire, mais... C'était mon petit rituel du matin avant d'aller travailler, ça me faisait patienter.
Et alors, donc, ils étaient comment les résultats?
Ah ben évidemment, ils étaient négatifs. Enfin, le premier était négatif. Je l'ai fait au bout d'un petit peu plus d'une semaine.
Ouais.
Et effectivement, ben forcément, il était négatif.
Ouais.
Voilà. J'ai refait le deuxième 2 jours après. J'ai pas fait le lendemain, j'ai fait 2 jours après, qui effectivement était aussi négatif, parce que c'est pareil, ça faisait qu'une dizaine de jours.
Okay.
Je le jette, je continue mon petit rituel, et je sais pas pourquoi, au bout d'un quart d'heure, je me dis, ah, je sais pas, j'ai eu un doute. Je suis retournée le chercher, et là, j'ai vu un tout petit positif. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que à force, ça tourne, ou je sais pas, je savais pas. Mais du coup, ça m'a mis en doute quand même. Donc, j'ai refait un test le lendemain qui avait un positif un peu plus léger, et tous les jours, un peu plus prononcé, qui était léger encore, mais un peu plus prononcé. Et le surlendemain, donc 3 jours de suite, le positif était un peu plus franc. C'était encore pas super, mais c'était un peu plus franc. Donc, du coup, je commençais quand même à être assez positive là-dessus.
Super. Et donc, vient le jour de la prise de sang?
Oui, vient le jour de la prise. Alors, avant la prise de sang, j'ai refait quand même le dernier test que j'avais acheté, où c'était écrit... Parce que jusque-là, c'était juste les plus-moins. Et là, j'avais acheté pour le dernier un test où c'était écrit.
Ah, en sens.
Voilà.
Vous avez tout prévu quand même. Hein. C'était très...
Et donc, j'ai fait ce test le jour de la prise de sang, mais c'est pareil, en attendant les résultats, parce que j'étais pas très patiente sur ce coup-là.
Non, personne n'est, hein. C'est pas facile d'attendre.
Et il s'avère qu'il était effectivement positif.
Génial, génial, génial. Donc du coup, ça aurait marché dès la première insémination.
Ça a marché du premier coup.
Oh, c'est génial. Donc, super. Donc du coup, quelles sont les prochaines étapes là? Une fois que tu es enceinte, tu n'as plus rien à dire à la clinique en Espagne, ou comment ça se passe?
Alors, je les informe. Je les informe un peu tout au long de la grossesse. En fait, ils m'envoient. Alors, chose que je savais pas pour le coup, mais eux, de temps en temps, ils me relancent en m'envoyant des mails pour savoir. Bon, alors la première étape, c'était effectivement de savoir si j'étais enceinte ou pas. Et puis après, si la grossesse se déroulait bien. Et puis pour finir, il fallait que je leur dise quand j'avais accouché et si ça se passait bien ou pas. En fait, je pense, d'après ce que j'ai compris, ils ont besoin de rentrer dans leur base de données si ça a fonctionné, si la grossesse a été à terme, etc.
D'accord.
Parce qu'en plus, le donneur a le droit de
savoir ce que ça a donné.
Je ne sais pas trop comment l'expliquer, il y a un nombre d'enfants nés par donneur. C'est-à-dire qu'il ne peut, peut pas donner son don.
Il a un seuil, il ne peut pas aller au-delà de ce seuil.
Voilà.
Et il est de quel ordre d'ailleurs ce chiffre, tu sais?
Je crois que c'est une dizaine.
Ah, quand même. Eh ben, très bien. Et alors, ta grossesse, généralement une grossesse qui est issue de la PMA et suivie d'un petit peu plus près, est-ce que c'est le cas pour toi?
Non, pas plus que ça.
Okay.
Non, moi, c'est suivi comme une grossesse classique parce qu'en fait, je suis pas suivie par un centre de PMA ou par. Bah moi, du coup, je suis déclarée comme une grossesse classique dans les dossiers puisque j'étais pas censée faire ça.
Ok. Alors, t'es dans quel état d'esprit donc du coup quand tu apprends que tu es enceinte ?
Eh ben, très heureuse, évidemment, oui.
Soulagée, j'imagine aussi. Quel est ton niveau de stress sur la continuité de la grossesse ? Comment ça se passe ?
Je suis très stressée les premiers temps de, ben, comme tout le monde, je pense, peur de perdre le bébé.
Ouais.
Tout simplement. Je pense que là, comme...
Donc le premier trimestre ou le temps que tu sentes bébé bouger ou...
Voilà, c'est un peu moins serein, disons. Et puis après, bah, toute seule, c'est vrai que c'est une fois encore pas si simple dans le sens où j'ai envie de partager les étapes, les ma joie, tout ça. Et ça, c'est pas facile. Donc je bassine un peu mon aîné, mais évidemment, c'est pas pareil que si s'il y avait un papa.
Ouais, je comprends bien. Et du coup, quand est-ce que tu l'annonces à tes proches que ça a marché ou à ton entourage ?
Bah là, je le dis assez vite. Je le dis assez vite aux personnes qui étaient au courant, mes amis très proches, là, je sais pas, ce sont 5 à être au courant. Donc elles, je leur dis quand même assez rapidement parce que c'est vrai qu'elles ont quand même suivi... Bah, le processus depuis quasiment le début. J'avais pas forcément dit la date à laquelle j'avais été sur le moment, mais effectivement, après, me posait des questions. Elle voyait bien que j'ai plusieurs amis qui étaient passés des soirs à l'heure où j'avais mon injection à faire. Elle voyait qu'il n'y en avait plus forcément, etc. Donc, elles l'ont su rapidement. Et puis, pour les autres, pour les personnes de mon entourage, les autres, je l'ai dit bah, au bout de 3 mois, comme on fait de façon assez classique.
Oui, parce que tu n'avais pas de compagnon, donc ils s'y attendaient pas.
Et là, ça a été la grande surprise pour énormément de monde.
Tu as annoncé, par contre, comment tu étais tombée enceinte.
Voilà, et puis bah, comme je n'avais jamais parlé de cette démarche à personne, effectivement.
Parce que tu dis ils ont été très surpris de la démarche, donc tu leur as annoncé comment tu étais tombée enceinte également.
Alors, ils ont été surpris de la démarche, mais surpris en fait déjà que je sois enceinte. Parce que, comme tu le dis, j'avais pas de compagnon, et parce que, effectivement, j'avais pas parlé de ce souhait d'enfant, parce que j'ai pas parlé de cette démarche de PMA, j'en avais pas parlé avant. Donc, effectivement, ça a surpris. Et oui, ça a surpris, certainement choqué certaines personnes même, que je fasse cette démarche. Et puis, inquiété aussi, sans doute d'autres.
Ah oui, comment ça ?
Inquiété dans le sens, parce que je suis toute seule, c'est pas facile d'élever un enfant seul, j'en savais quelque chose. Et puis parce que c'est quelque chose qui est tabou, donc en fait, comme on n'en entend pas forcément parler, les gens s'imaginent pas que c'est quelque chose qui peut se faire, qu'il y a d'autres enfants qui vont être dans le même cas que ma fille, etc.
Ouais, je comprends. Et donc, du coup, ta grossesse se passe bien ?
Ma grossesse se passe bien sur le plan médical. Après, au niveau émotionnel, bah, moi, comme je disais, j'ai envie de partager. Tout ça, c'est pas simple d'être complètement seule. Et puis après, elle n'est pas très sereine parce qu'elle est ponctuée de plein de doutes. Hein, ça, évidemment, comme n'importe qui, je pense. Mais aussi d'événements un peu plus ou moins difficiles, comme un décès, à la deuxième écho, une annonce d'éventuelle trisomie. Quelques mois encore après, ma fille s'est fait agresser, mon papa a fait un AVC. Enfin bon, ça a été ponctué de plein de petits choses pas sereines, ouais.
Ouais, une grossesse mouvementée.
Moi, médicalement, tout se passe bien. Donc, c'est le principal.
Tu te fais accompagner justement si c'est pas facile psychologiquement pendant la grossesse ou pas du tout ?
Non, toujours pas.
Mais écoute, si t'en as pas besoin. Et alors donc du coup, tu mènes cette grossesse à son terme ?
Voilà, j'ai accouché 3 semaines plus tôt, mais bon, c'est pas.
Et question peut-être bête, mais il y a quelqu'un du coup avec toi dans la salle d'accouchement ? Tu te fais accompagner de quelqu'un ?
Alors ma maman m'avait proposé de venir. Mais elle a pas eu le temps d'arriver. En fait, donc j'étais chez mes parents la nuit, parce que c'est dans la nuit que je suis partie, la nuit où les contractions ont commencé. J'ai eu peur d'accoucher dans la voiture de ma maman. Donc, dans le doute, on a appelé une ambulance, mais qui a mis quand même un peu de temps à venir, un peu de temps à partir aussi, parce que l'ambulancier n'était pas sûr, il fallait qu'il rappelle le médecin du SAMU pour savoir si effectivement il m'emmenait ou s'il me faisait accoucher sur place, ce qui ne m'enchantait pas tellement.
Oui, j'imagine. Tu voulais une péridurale ou des choses comme ça ?
Oui, bah là, de toute façon, je pouvais l'oublier parce que j'arrivais vraiment, les contractions se rapprochaient. Donc, mais je voulais quand même au moins pouvoir accoucher dans un endroit où il y avait du matériel.
Oui, ouais, je comprends bien sûr. Et ça a été si rapide, du début de tes contractions jusqu'au OK, elles sont espacées de très peu, il faut y aller ?
Bah, la première contraction a commencé vers 1h du matin. La deuxième, une demi-heure plus tard. Donc ça, j'étais large, quoi. Encore une demi-heure après. Et puis par contre, donc ça a duré pendant 1h. J'ai eu en gros 3 contractions. Et à 2h, elles ont commencé à être... D'abord, j'ai fissuré la poche des os. Et après, elles ont commencé à être très rapprochées. Je pensais avoir le temps de prendre ma petite douche, tout ça, mais ça n'a pas été si simple que ça.
D'accord.
Et donc, c'est là que j'ai appelé l'ambulance et ça a traîné. Ils ont mis presque 1h à venir, puis après, presque autant à partir. Donc, en fait, le temps de faire la route ensuite, parce que j'avais 3/4 d'heure de route.
Ah oui, d'accord. Oui, ouais, effectivement. Donc, c'est pas facile.
Ma fille est née, en fait, 10 minutes après mon entrée dans la salle d'accouchement. Voilà.
Il fallait pas s'arrêter au feu rouge. Oh waouh, ok. Donc du coup, tu étais toute seule avec les...
J'étais toute seule, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, on en avait parlé avec ma mère juste, je ne sais pas, la veille ou peut-être bien même l'après-midi même, où je lui disais que finalement, je préférais qu'elle reste avec ma grande, parce que ma fille m'avait dit qu'elle voulait être dans la salle d'attente. Et je m'étais dit, si jamais quelque chose se passait pas si bien que ça, alors j'avais jamais imaginé que quelque chose se passe mal, mais voilà, on ne sait jamais. Je préférais que quelqu'un soit avec ma grande, en fait.
D'accord, ouais, qu'elle ne soit pas toute seule.
Oui. Donc, du coup, je m'étais préparée à accoucher toute seule.
Ok. Chapeau.
Bah, toujours dans cette idée que, de toute façon, bah, je me lançais là-dedans toute seule. Donc,
Alors, du coup, une seconde petite fille voit le jour. Elle s'appelle comment, tes petits, d'ailleurs, tu peux le dire ou pas ?
Alors, la grande s'appelle Ambre. Et la petite s'appelle Maxine.
Oh, que c'est mignon. Super. Et donc, bébé en pleine santé, tout va bien ?
Voilà, bébé, tout va bien. Une grande sœur Gaga et une maman comblée. Voilà.
Eh ben, génial. Tes débuts, du coup, en tant que maman d'un deuxième petit enfant, tout se passe bien. Tu reçois, du coup, le soutien de tes proches et de ta grande, du coup, j'imagine.
Oui, alors de ma grande énormément, de mes proches aussi, d'ailleurs. J'ai eu plus de... Je pense que pour ma grande, d'abord, j'étais pas complètement seule dans le sens où j'ai vécu 1 an chez mes parents. Quand j'ai accouché de ma grande. Donc, j'avais énormément de soutien de mes parents et je comptais beaucoup sur eux parce que j'avais peur de mal faire, de ne pas savoir faire, de mal faire. À 19 ans, j'étais pas du tout. J'avais peur de lui faire mal, de mal faire. Fin.
Ah ouais, ok.
Donc, en fait, là, j'ai eu l'impression que c'était. Alors, d'abord, une première grossesse, parce que c'est vrai que la grossesse de ma fille aînée, je ne l'ai pas vécue pleinement. Je ne l'ai pas. J'ai pas eu de déni de grossesse, mais je l'ai pas vécu. J'ai mis du temps à l'exposer, enfin, à dire que j'étais enceinte. Et puis, j'ai été remplie de tellement de doutes parce que la situation était pas du tout idéale, que, en fait, ça a gâché, entre guillemets, cette grossesse. Donc, déjà, là, cette seconde grossesse était un peu une revanche et comme une première grossesse. Et les premiers mois de ma fille aussi, du coup.
Si, justement, tu disais quelque chose qui n'a pas été facile quand tu t'es lancée dans toutes ces démarches, c'était de savoir, d'avoir en fait des informations et des retours d'expérience. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer qui pourrait aider des personnes qui se lanceraient dans un projet comme le tien ?
Eh ben déjà que c'est finalement pas si compliqué, entre guillemets, que ça, enfin que le corps médical français est prêt à nous aider.
Ouais, ça c'est important.
Et ça c'est quand même important parce que c'est vrai que c'est, enfin moi c'est une question qui m'a quand même, je me suis dit si tout m'est possible et que là ça coince, ça m'aurait quand même.
Bien sûr.
Donc dire ça et puis dire que ben en fait ce qui serait bien c'est bon, déjà que ce soit possible en France mais aussi qu'on ose en parler que les femmes sachent qu'elles ne sont pas toutes seules dans cette situation.
Et ouais, il y a encore du boulot hein, pour lever tous ces tabous. Question, on parlait tout à l'heure du budget, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin sur ton porte-monnaie également. Au final, tu as une idée de combien ça t'a coûté, ce projet deuxième bébé ?
Alors déjà, il y a eu 1500 euros d'insémination. Il y a eu deux séjours, deux passages, plus l'avion, peut-être près de 3000 euros, je dirais.
Ouais. Et après, tout ce qui est toutes les prises de sang, les échographies, pré-insémination, j'imagine que c'était ta poche, c'est ça ?
Alors, les prises de sang et échographies avant, non, parce qu'en fait, cette démarche-là n'est pas légale, mais pour autant, de faire des prises de sang et de passer des échographies, ça, c'est légal, parce que ça pourrait être dans un tout autre cadre.
D'accord, ok.
Donc ça, non, ça n'a pas été payant. Après, c'est environ 400 euros de traitement hormonal.
D'accord, donc à peu près 3 500 euros de budget.
Donc, quand on est tout seul, c'est pas... Enfin, même à deux, de toute façon, hein, c'est un coût. Mais avec un seul salaire, c'est je pense, d'autant plus...
Oui, c'est un gros impact sur le budget familial, j'imagine bien. Tu avais fait des économies à l'avance en prévision de ce projet ?
Un peu, mais pas à cette hauteur. Donc, voilà.
Très bien. Et alors, un truc sur lequel je voulais revenir au début de l'épisode, tu me parlais des donneurs donc, anonymes et du fait donc, que ta fille ne pourra rien savoir sur le donneur, en tout cas, si la loi reste telle qu'elle est en Espagne. Toi, tu as eu zéro information. Enfin, en fait, je veux dire, c'est parce qu'en France, tu passes au tribunal, c'est ça, pour avoir un don de sperme. En Espagne, c'est hyper, hyper simple. Comment ça se passe ?
Eh ben non, moi, rien du tout. C'est juste... Alors, dans mon dossier que j'ai remis au premier rendez-vous à la clinique, on m'a demandé de remplir une fiche avec la couleur de mes yeux, ma taille, mon poids, etc. Vraiment, ouais. Les caractéristiques physiques, mes origines et des photos. Parce qu'en fait, ils choisissent le donneur en fonction donc, de mon groupe sanguin et de mon physique, de mes traits physiques.
Ah ouais, donc ils cherchent à avoir quelqu'un qui a des similitudes caractéristiques physiques.
Voilà, pour que les enfants en fait, ressemblent au plus proche au seul parent et qu'ils puissent s'identifier.
D'accord.
Voilà, par contre, moi, j'ai droit de rien savoir, ni son origine, d'ailleurs, ni rien du tout. La seule chose que j'ai pu savoir, c'est son groupe sanguin, qui est le même que moi, d'ailleurs.
Eh bien, dis donc, ok. Très bien. Est-ce que tu prévois, du coup, d'en parler à ta fille quand elle sera en mesure de comprendre ou pas du tout ?
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, à la clinique, ils nous remettent un... Enfin, ils nous remettent, c'est numérique, mais un petit livre, je n'ai plus le nom en tête, en tout cas, enfin, qui explique le don pour l'enfant, quand il sera voilà, un petit livre pour enfant.
Bon, super. Et donc, pour l'instant, je dirais, elle a quoi ? Elle a deux ans et demi, c'est ça ?
Elle a 2 ans et demi, mais donc, pour l'instant, non, elle pose pas de questions, elle se pose même pas de questions de savoir si son modèle familial est le même qu'ailleurs ou pas.
Bon, bah, tant mieux. Elle est heureuse, c'est ce qui compte ?
Elle a l'air, en tout cas.
Bon, super. Est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se dise au revoir ? Quelque chose que tu voudrais que la communauté sache ou que des parents ou des futures mamans qui se lancent dans des projets comme le tien sachent, un conseil, un encouragement ?
Eh ben, il faut y croire, déjà. Et puis... Et puis, j'espère que ça deviendra moins tabou, qu'on pourra en parler plus librement et voilà, qu'on va avancer à ce niveau-là.
Bah écoute, on est complètement en phase et on y travaille. En tout cas, ton témoignage aujourd'hui contribue grandement à libérer la parole là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler, Émilie.
Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir créé ce podcast justement qui va peut-être permettre de libérer les paroles.
Écoute, c'est tout ce que j'espère. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne continuation. Et écoute, de gros bisous à Ambre et Maxime.
Bonne continuation.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto « être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.